Georges Vigarello, vous êtes diplômé en éducation physique, agrégé de philosophie, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes également président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Mais il y a un fil rouge dans tout votre parcours, ce fil rouge il est commun à tous les hommes, à toutes les femmes, c'est le corps. Vous avez écrit une thèse de doctorat qui s'appelle « Le corps redressé » et vous avez écrit un livre il y a un an qui s'appelle « Le sentiment de soi ». Pouvez-vous nous dire, Georges Vigarello, le parcours que vous avez fait entre le corps redressé et le sentiment de soi ?
Effectivement, on peut considérer qu'il y a un fil. Le premier, c'est l'intérêt que j'ai trouvé personnellement à la pratique physique, voyez-vous. J'ai été professeur d'éducation physique et c'est vrai que j'ai été passionné par la pratique dans la mesure où j'ai considéré que c'était une façon extrêmement forte de s'investir dans le comportement. Ce n'était pas tellement d'ailleurs la recherche systématique de la performance qui était au cœur de ma pratique, c'était plutôt le plaisir, voyez, le plaisir à essayer de se livrer comme ça à des activités en étant attentif à la technique, et en étant attentif à la façon dont le comportement vous permet de ressentir un certain nombre de choses. Donc c'est de là, en fait, que je suis parti. Alors maintenant, c'est vrai que ma thèse qui s'est intitulée « Le corps redressé » portait sur le problème de la surveillance à l'égard de la posture.
Le « tiens-toi droit ».
Le « tiens-toi droit » et sur l'éducation qui devait conduire à la posture la meilleure. Mais avec en même temps l'idée suivante, la posture, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte. Et en même temps, la posture, c'est aussi une façon de se présenter, mais en même temps de s'épanouir. Donc vous voyez, d'un côté, il y a quelque chose qui est de l'ordre des surveillances, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement, de l'assurance et de l'affirmation.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de la symbolique ?
Bien entendu.
Redresser.
Bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la symbolique, et cette symbolique, on peut l'interpréter de diverses façons. Il y a une symbolique qui est la suivante. Se tenir droit, c'est avoir un comportement d'ascension. Et évidemment, dans un repérage religieux, c'est le fait de se tourner vers le ciel, certes. Mais d'un autre côté, il y a aussi la symbolique de la ligne droite, hein, qui est une symbolique qui est celle de l'affirmation, précisément, vous voyez, sans nécessairement se référer à un repère religieux, en se référant simplement à une symbolique humaine.
Il y a aussi quelque chose que vous avez certainement dû étudier, qui est le rapport de la parole avec le corps. Parce que la parole aussi permet peut-être un vieillissement ou un rajeunissement.
Alors, je suis très sensible au fait que vous fassiez référence à la parole, parce que souvent quand on pense au problème du corps, on oublie que le corps ne prend véritablement son sens que par la façon dont il est désigné et que aussi par la façon dont il parle. Et alors, quand je m'intéressais à la posture, moi, j'étais effectivement très sensible à la manière dont la posture était parlée et à la façon dont des mots différents désignaient des positions différentes, mais la façon aussi dont la parole peut aider à trouver une posture, à jouer sur des formes de détente ou sous des formes de raidissement. C'est effectivement en partant de ces indications que, dans une autre phase de mon travail, je me suis intéressé à la question de la santé. La question qui porte sur comment on peut s'intéresser au corps comme signe de la manière dont on épouse au mieux toutes les potentialités de ce corps, c'est-à-dire finalement dont on épouse au mieux les ressources de la santé. Donc ça a été une deuxième phase de mon travail. Mais aussi, de quoi le corps est-il porteur ? Alors il est porteur, nous l'avons dit, d'une certaine ressource, d'une certaine efficacité, d'une certaine tension vers l'affirmation de l'apparence. Mais il est aussi porteur de quelque chose que l'on pourrait appeler comme pulsionnel, de quelque chose qui peut être destructeur. Et voilà pourquoi je me suis aussi intéressé à la violence. Et j'ai fait un travail qui a été de faire une histoire du viol. Voilà, dans la mesure où le viol, c'est quelque chose, c'est une violence fabuleusement complexe et fabuleusement terrible, dans la mesure où c'est une violence physique, mais c'est aussi une violence psychologique.
Comment est-ce que vous articulez le corps, la violence et l'usage de la parole? Car on voit bien, même dans la Bible, que le premier meurtre, celui de Caïn sur Abel, oui, il a lieu parce qu'il n'y a pas de parole.
Vous avez absolument raison. Dans bien des cas, la violence, c'est un signe d'impuissance. C'est un signe de difficulté à trouver la médiation. Lorsqu'Hegel dit la violence, c'est précisément le moment de la non-médiation. C'est parce qu'il n'y a pas la façon de faire exister quelque chose qui est d'ordre de l'expression et quelque chose qui est de l'ordre de la tentative de rencontrer, finalement, l'autre et l'interlocuteur. Et la violence, c'est une façon de ne pas rencontrer. Et dans le viol, la violence, c'est une façon de faire taire, en particulier. C'est une façon, à la fois, donc, de faire taire l'autre, mais c'est aussi une façon de s'adresser à l'autre sans un mot. Il y a une façon de terroriser l'autre en se taisant.
Et justement, comment est-ce que vous arrivez à faire le lien avec ce que vous venez de dire et votre dernier livre, Le sentiment de soi?
Quand vous travaillez sur le corps, je pense que vous vous rendez compte que l'enjeu, il est bien entendu celui de l'apparence. C'est le premier travail sur lequel je me suis penché. Mais l'enjeu, c'est aussi une forme de recherche d'efficacité. Donc il y a cette deuxième dimension qui est celle de l'efficacité. Il y a une troisième dimension qui est celle du sensible. Et ce sensible, dans le cadre de la question de la propreté sur laquelle j'avais travaillé, c'est extrêmement présent. Ce sensible, c'est une façon d'éprouver le rapport entre le corps et le monde. C'est-à-dire la façon dont les cinq sens peuvent être présents, la question de la propreté étant essentiellement centrée sur le problème de la peau. Mais puis, il y a une quatrième dimension, qui est celle non seulement de la sensibilité installant le rapport entre le corps et les choses, mais le problème de la sensibilité installant le rapport entre le corps et soi. Et je dirais soi en mettant des guillemets, parce que le soi, c'est à la fois une dimension qui est psychologique, mais c'est aussi, voire morale, mais c'est aussi, donc religieuse, mais c'est aussi une dimension qui est physique. Cette installation d'une relation entre une sensibilité qui est centrée vers l'extérieur et une sensibilité qui est centrée vers ce que j'appellerais, moi, l'intérieur du corps. Cette relation-là, dans l'histoire, elle est tardive. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Elle est tardive. Autrement dit, c'est vrai que depuis toujours, la douleur est présente. Le sentiment de la fatigue, par exemple, est présent. Mais l'interrogation sur la façon dont se diversifie cette sensibilité interne et la façon dont cette sensibilité interne peut renvoyer à quelque chose qui est de l'ordre de la personne, qui est dans la singularité. Cette question-là, elle a émergé tardivement. Lorsque vous lisez un texte comme Descartes et que vous voyez que dans l'édition de la méthode, la découverte de soi passe par la pensée, je pense donc je suis. Et lorsque vous lisez au contraire les auteurs du 18e qui disent je sens donc je suis, vous voyez très bien que là, on a basculé d'un moment philosophique à un autre. Et cet autre est extrêmement important parce qu'il approfondit le volume de soi et la manière dont on peut se penser.
Qu'est-ce qui est pour vous la chose la plus importante dans cette recherche sur le corps?
Je crois que nos sociétés, avec d'immenses défauts, nos sociétés ont découvert quand même la richesse de l'individu. Cette richesse, elle peut être exploitée d'une façon incontestable, comme la consommation. Mais en même temps, nos sociétés ont quand même découvert, je crois, un enrichissement qui est celui de l'interrogation plus aiguë sur soi comme sujet totalement singulier et totalement unique. Je suis très frappé par la façon dont le sport a bougé. Le sport, bien sûr, conserve des pratiques traditionnelles, mais en même temps, le sport invente des pratiques qui sont beaucoup plus centrées sur la question du sensible qu'elles ne l'étaient auparavant. Vous voyez, les pratiques de glisse, les pratiques de vol, etc. Et cela me paraît renvoyer à des façons d'enrichir son capital, au fond, de sensibilité et son capital de singularité.
Dernière question, Georges Vigarello. Quel est le rapport du corps et de l'intériorité? Le pape Jean-Paul II, oui, écrit dans ses écrits sur le corps peut être considéré comme un sacrement.
Je pense qu'effectivement, le corps a une singularité qui le rend éminemment précieux et qui en fait quelque chose d'absolument exceptionnel et unique. Et c'est cela qui peut renvoyer à une image du sacré. Et j'en veux pour preuve ce texte tout à fait étonnant d'Emmanuel Carrère qui s'intitule « Le royaume », texte dans lequel il essaie d'expliquer comment il a progressivement rejoint une forme de mystique et comment cette mystique a joué un rôle central dans son propre comportement. Or, ce qui est frappant, c'est qu'une des premières phases de cette entrée dans le monde de la foi, une des premières phases a été la suivante. Allonge-toi, concentre-toi, concentre-toi sur ta langue. Et ça a été un moyen finalement de rejoindre une véritable profondeur qui est la profondeur de la foi. Moi, je ne dirais pas forcément les choses comme ça, mais je suis extrêmement sensible à cette démarche parce que je crois qu'elle touche finalement au cœur de ce qu'est un individu.
Merci Georges Vigarello.
C'est moi qui vous remercie.